Grèce ou au Groenland, à la mer ou à la montagne, version plage ou randonnée, farniente à l'italienne ou bonne sieste à la Corse, cela s'appelle l'été, les vacances, et même pour ceux qui restent posés là sans voyager, il est toujours possible de partir en livre. Partir en livre est le nom d'une manifestation qui, pour la cinquième année, propose plus de 7000 événements un peu partout en France pour donner aux jeunes le goût de lire. C'est très français, mais ça peut donner des idées. Bonjour Vincent Monadet.
Bonjour.
Vous êtes le président du Centre National du Livre et donc le maître d'œuvre de cette manifestation qui commence aujourd'hui pour 10 jours. C'est une jolie destination, le livre.
Le livre, c'est un merveilleux endroit pour voyager. On voyage avec des amis qui ont le bon goût en plus souvent d'être silencieux, ce qui est très agréable avec ses amis, et on s'évade, on prend du plaisir, on rêve, on apprend aussi des choses. Le livre est aussi un fabuleux vecteur d'apprentissage, et cette fête, c'est justement ça, c'est sortir le livre des lieux où elle est pour le mettre là où les gens sont en vacances, ou pour ceux qui ne partent pas en vacances, là où ils sont pendant l'été.
Partir en livre au singulier, pourquoi ?
Parce que la fête s'appelait au tout début de son existence Lire en short, et que ça n'a pas plu à une ministre qui a choisi ce nom, Partir en livre, à la place, qui est un joli nom aussi et auquel nous nous sommes maintenant complètement habitués, et qui dit bien cette idée qu'un livre sert à partir loin.
Je ne sais pas qui est cette ministre, mais elle avait quand même assez raison, c'est plus joli que lire en short. Surtout qu'on peut ne pas porter de short. Quel est l'objectif réel de cette manifestation ? On l'a dit, donner le goût du livre par tous les moyens. Vous dites faire une nation de lecteurs. C'est plus qu'un objectif, c'est une ambition presque démesurée.
C'est une ambition, je la crois pas démesurée, c'est une ambition qu'on devrait tous avoir. La fête s'adresse aux enfants, en priorité, avec leurs parents, leurs grands-parents bien sûr, mais essentiellement aux enfants, parce que quand on fait d'un enfant un lecteur, on le garde pour toute une vie. Il n'y a pas d'exemple de grands lecteurs qui arrêtent de lire. Ils ont des phases de vie, tout le monde a des phases de vie où on lit plus ou on lit moins, qui sont liées à l'activité professionnelle, au temps libre qu'on a. Mais un lecteur retournera toujours vers le livre et arbitrera toujours dans ses loisirs pour laisser une place au livre.
Donc un lecteur est d'abord un enfant lecteur.
Ah oui.
On ne peut pas devenir un lecteur à 70 ans.
Si, il y a des exemples. Mais ça reste des exceptions à une règle. Un enfant lecteur devient un lecteur. Quand on ne lit pas, c'est très difficile de revenir vers la lecture. Ça peut se produire avec la rencontre d'un livre particulier qui va vous marquer à vie et vous pousser vers d'autres livres, mais c'est rare.
Alors nous verrons dans le détail, Vincent Monadet, quelques-unes des propositions de cet événement, mais on va juste en voir quelques-unes parce qu'il y en a plus de 7000. Mais auparavant, dites-moi deux mots sur le CNL, car c'est un des piliers de la politique en faveur du livre en France, et il me semble quand même que cela fait partie un peu de l'exception culturelle française.
Ah, tout à fait, il a été créé en 47, en même temps que le Centre National du Cinéma, donc ce sont les deux outils premiers de l'exception culturelle française, avant même que l'exception culturelle prenne toute sa dimension avec Malraux puis Lang. C'est le bras armé de l'État pour la chaîne du livre, c'est-à-dire que l'argent que nous avons sert à soutenir les auteurs, les libraires, les éditeurs, les organisateurs de salons littéraires et les bibliothèques.
Donc vous intervenez sur toute la chaîne.
Toute la chaîne.
Ça explique que les Français lisent toujours beaucoup. Beaucoup. Qu'est-ce qu'on dit ? Beaucoup, relativement beaucoup.
Non,
88% des Français disent lire.
Par rapport à d'autres peuples, c'est un peuple plutôt de lecteurs. Hein. C'est certain que si on prend les chiffres aux États-Unis, ils sont beaucoup plus inquiétants que chez nous. Je pense pas que ça l'explique, ça aide en tous les cas à ce que ça reste un peuple de lecteurs, mais il y a une histoire entre ce pays et le livre. Voilà. On a bien vu avec l'invention de l'écrivain engagé, avec l'importance des écrivains dans la Révolution française au 18e, il y a un lien avec les 800 000 personnes, je crois, de mémoire qui ont suivi l'enterrement de Victor Hugo, il y a un lien consubstantiel entre ce peuple et le livre.
Un peu inexplicable.
Un petit peu inexplicable, oui.
Partir en livre, vivre en livre et écouter du live. Je suis la reine de la piste, Elena Noguera.
Salut.
Salut.
On se connaît ?
Non.
T'es qui ?
Moi ? Je suis la reine de la piste.
Je suis la reine de la piste, l'antige dadaïste. Je suis le clown blanc, tu sais, le triste. La grande sauterelle équilibriste, l'amour, belle fesse de service. La fille comique, la féministe. J'aime bien le ketchup, Pina Bosch, Kenneth Anger et Jesus Kitsch. Le whisky, la clope, mon dudu sans-tige, c'est mon kiff. C'est vrai, j'ai l'air d'une petite chose qui pleurniche.
Sur RFI avec Elena Noguera et le patron du CNL, Vincent Monadet, pour la 5e édition de Partir en livre, ce qui est mieux que partir en live, puisque c'est un anglicisme assez courant pour dire que finalement on prend une mauvaise tournure, on pourrait dire, cette émission part en live, mais enfin c'est pas tout à fait vrai pour l'instant. Amener les jeunes à la lecture, est-ce que c'est essentiel, Vincent Monadet, et est-ce qu'il y a un âge pour faire découvrir le livre à un enfant ?
Alors un âge pour faire découvrir le livre, il n'y en a pas. Enfin, à la naissance. Dès tout petit, on peut mettre des livres cartonnés ou des livres de bain entre les mains de l'enfant, qu'il utilise l'objet et qu'il se familiarise avec. Et puis surtout, dès tout petit, on peut lui raconter une histoire. Le moment de l'histoire racontée est un moment vital, je pense, pour la construction d'une personnalité et aussi pour la construction d'un lecteur. C'est-à-dire, c'est bien parce que les parents racontent des histoires qu'au bout d'un moment, l'enfant se dit, mais ces histoires qui sortent de ce truc-là, il faudrait que je puisse les faire sortir moi-même. Et donc, devient lecteur.
Donc, on devient lecteur avant, finalement, de savoir lire.
Ah oui. On devient lecteur. Moi, c'est ma conviction. On devient lecteur, ça se joue. Dolto disait tout se joue avant 3 ans. Ça se joue à ce moment-là, bien sûr. Ça se joue dans ce lien consubstantiel à la lecture quand les parents prennent le temps de lire un livre. Et c'est pour ça que c'est très important que les parents prennent ce temps-là.
Donc, apparent lecteur, enfant lecteur.
Oui, bah, l'étude qu'on avait publiée au printemps le montre très bien. Hein, il y a une espèce d'inégalité socio-culturelle qui est très difficile à casser. C'est que les parents lecteurs font des enfants lecteurs, ont des enfants lecteurs, et que c'est beaucoup plus difficile pour les enfants dont les parents sont non lecteurs de devenir lecteurs.
Alors pour séduire les jeunes, pour cette opération Partir en livre, vous avez choisi un parrain de renom qui est la star des cours d'école. J'ai nommé Zep, le père de Titeuf, qui depuis 27 ans se demande, avec sa tête en forme d'œuf et sa mèche blonde en érection, à quoi ressemblent les filles. Zep au micro de Marjorie Bertin.
Je suis convaincu que c'est très important de lire du roman, de lire de la bande dessinée, de lire de l'aventure, parce que c'est une manière de devenir un autre personnage Et pendant le temps d'un livre, être quelqu'un d'autre, c'est une excellente manière de comprendre le monde qui nous entoure. Parce qu'on comprend qu'il y a d'autres manières de penser, d'autres manières de vivre, d'autres cultures. On va être, je sais pas, un Africain ou un Indien ou un extraterrestre ou un zombie pendant quelques pages. Et c'est une manière de se dire qu'on peut avoir plusieurs manières de vivre. C'est vachement important, ça.
Et votre héros, Titeuf, Zep, c'est un lecteur ?
Alors, dans ses aventures, on le voit surtout lecteur de manuels scolaires, le pauvre. Mais en tout cas, il est friand de fiction très très fort, puisqu'il passe une grande partie de sa vie à imaginer ce qui pourrait être d'autre qu'un écolier. Il en a besoin, parce que ça fait bientôt 27 ans qu'il est écolier, donc c'est pas juste là pour lui.
Ouais, que c'est que ce chahut ? Silence ! Titeuf, chez le directeur !
Titeuf, chez le directeur !
Alors, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée de l'objet livre, quel que soit le type de littérature, par rapport au numérique ?
Les livres sur tablette, c'est la même chose. C'est juste une autre manière de prendre un livre avec soi. Mais je pense que ce qui est important dans le livre, pas versus la tablette, mais contre la fiction des jeux vidéo, c'est que dans tout ce que proposent les jeux vidéo, c'est une fiction qui est immédiate et qui est préparée. C'est qu'on a préparé des personnages pour que les enfants jouent leur rôle et ils vont pendant une heure, deux heures, trois heures couper la tête à des zombies ou assassiner des mutants ou rouler sur des piétons. Mais ça va pas leur apprendre grand chose d'eux-mêmes. C'est une occupation, c'est du temps pendant lequel leur cerveau est utilisé pour faire quelque chose d'assez précis. Mais généralement, quand ils sortent de cette période, il leur reste pas grand chose. Ils ont pas vraiment été ce personnage. Ils ont mis ce costume immédiatement et ça a disparu très très vite.
Alors, René, je suis même pas renvoyé, j'ai juste un avertissement. C'est pas grave, la journée est pas encore finie. Vous êtes avec moi ?
Ah ouais !
Vincent Monadet, vous validez ce que vient de dire Zep, les jeux vidéo sont l'ennemi de la lecture ?
L'ennemi, non. Là où je suis complètement d'accord avec lui, c'est que la littérature est à mon sens beaucoup beaucoup plus riche, mais aussi que le cinéma, hein, puisque personne ne vous impose une vision dans la littérature. L'écrivain a écrit quelque chose et c'est vous qui structurez la pensée autour et inventez les personnages, leur donnez corps, leur donnez un visage. Inconsciemment, vous le faites. Vous êtes beaucoup plus acteur du livre que du jeu vidéo ou du cinéma, à mon sens. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on a le même temps de loisir, il n'a pas augmenté. Les enfants ont le même temps de loisir qu'il y a 30, 40 ans environ. Et ce temps de loisir était avant entre peu de loisirs, donc le livre avait toute sa place. Et aujourd'hui, on a multiplié, il y a les réseaux sociaux, il y a le jeu vidéo, il y a Internet, et donc il y a des arbitrages qui sont faits.
Souvent au détriment du livre.
Souvent, hélas, au détriment du livre, sauf chez les grands lecteurs.
Vous le constatez, ça ?
Oui, on constate que les jeunes lisent toujours, mais que le temps consacré à la lecture, régulièrement, baisse.
Vous dites grand lecteur, c'est quoi un grand lecteur ? C'est combien de livres, puisque ça doit se quantifier ?
On appelle grand lecteur artificiellement quelqu'un qui lit plus de 16 à 17 livres par an.
Et ça correspond à combien d'enfants ?
C'est
hors livre scolaire ?
Alors, pas hors lecture obligatoire, ça on ne peut pas, hors livre scolaire, oui, mais pas hors lecture obligatoire, Zola, Flaubert, Maupassant, etc. On est sur à peu près 13 à 15% de jeunes qui sont dans ces environs-là, ce qui est pas mal. Hein.
Ce qui est pas mal du tout.
Hein.
Vous êtes content de cela ?
Ah bah non, je préférerais qu'il soit 80%.
Oui, la nation de lecteurs, il faut que ce soit un peu plus que 16.
Les jeunes lisent à plus de 85%. Hein.
En revanche, vous faites pas de distinguo entre livre papier et livre numérique. Et j'ai l'impression, dans une étude que vous avez publiée au printemps dernier, sur les habitudes de lecture justement des Français, que le livre papier résiste plutôt bien.
Alors, chez les adultes, c'est une évidence. Le livre numérique, ça n'a pas pris, pas beaucoup. Ça fait 6-7% du marché et les gens sont très attachés au papier. Les adolescents, eux, ils sont totalement nomades. C'est-à-dire qu'ils sont... Ils ont encore du papier, mais ils peuvent passer sur un écran sans aucune difficulté, que ce soit un écran de liseuse ou un écran de smartphone. Pour eux, la question du format ne se pose pas. Ils lisent partout où il y a de la lecture.
Et vous, dans vos statistiques au CNL, il n'y a pas non plus de distinguo sur le format, c'est la question de la lecture qui vous importe.
À nous, c'est la question de la lecture, bien sûr, qui est prioritaire. On étudie bien sûr le livre numérique et le livre audio, qui sont deux phénomènes importants, mais ce qui nous importe, c'est la lecture.
Un mot sur le portrait type du lecteur, et j'en reste plutôt à cette enquête du printemps. Le lecteur est une lectrice.
Oui, le lecteur est une lectrice de plus de 45 ans, donc dont les enfants sont grands, et qui a nouveau du temps à consacrer à la lecture. C'était sans doute et probablement, il faudrait, on n'a pas encore fait la corrélation, adolescente, une grande lectrice. Et puis après, la vie s'enclenche, elle travaille, elle a des enfants. Vous savez que les femmes ont deux journées en une, donc plus la charge mentale. Donc ça fait beaucoup au bout d'un moment, donc elle lit moins. Et puis tout ça grandit. Avec un peu de chance, son mari n'est plus dans ses pattes, soit parce qu'elle l'a mis dehors, soit parce qu'elle lui a appris que quand elle lisait, il fallait absolument qu'il reste
quelle vision du
tranquille.
Couple.
Et donc, elle a plus de temps pour lire, elle prend les livres et elle les lit, elle les redécouvre en quelque sorte, et elle va être grande lectrice.
Et ce distinguo homme-femme est vrai chez les jeunes lecteurs, lectrices?
C'est plus difficile à constater chez les jeunes. En revanche, à l'adolescence, le décroché qui se produit vers 13-14 ans est plutôt le fait des garçons.
Les hormones.
Ce n'est pas que les hormones, parce que les filles aussi sont quand même subissent une charge hormonale très forte à l'adolescence. C'est peut-être lié au phénomène de groupe et de bande, et à la façon que nous avons inconsciemment tous de d'élever nos filles, probablement avec moins de liberté tous, je pense, moins tu sors avec tes copains, plus à être en contrôle en fait, qui fait qu'elles sont peut-être plus souvent seules face à un livre.
L'enjeu de cette manifestation Partir en livre, qui commence donc aujourd'hui, Vincent Monadet, c'est de faire sortir les livres, de les emmener dans les endroits où les jeunes gens sont. C'est quoi la fourchette d'âge? C'est les très petits, on en a parlé, ça va jusqu'à la fin de l'adolescence à peu près.
Oui, on va jusqu'à 22-23 ans.
Ouais. Et vous initiez toute une série d'événements. Vous avez inventé par exemple le Livrodrome, qui fait concurrence au Tour de France, puisque c'est une caravane de livres.
Exactement.
Finalement qui se balade. Et puis pour concurrencer Mickey ou Astérix, il y a le lancement d'un parc d'attractions littéraires à la Courneuve, dans le 9-3, comme on dit, banlieue dite difficile, qui à force de lettres devient peut-être l'une des plus créatives. Pour s'en faire une petite idée, Sylvie Vassallo, la directrice du Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, a donné quelques exemples à Marjorie Verte.
Nous organisons un parc d'attractions littéraires en plein dans le parc de la Courneuve. Sur 10 000 mètres carrés, nous proposons aux enfants de jouer avec la littérature de jeunesse. Il y a une illustratrice qui a imaginé une sorte de relais sous forme animale, c'est-à-dire qu'on choisit des formes de pattes d'animaux et en équipe, on va reproduire ces formes en marchant. On va marcher comme un ours ou marcher comme un escargot ou marcher donc on part de l'illustration de l'artiste et puis on va avec elle jouer avec ça. Ou alors il y a un jeu de sérigraphie, un jeu de tampon avec des fourmis sur une grande carte géante où on réinstalle les fourmis, et dans la manière dont on fait se suivre les fourmis et leurs histoires, en fait on comprend aussi ce qu'est l'écriture littéraire, voilà, ce qu'est la narration. Il y a des jeux, simplement des jeux de plateau, comme des jeux de loi, mais où on va, en jouant les dés, on va monter dans une maison à partir d'une grande image d'une illustratrice qui est Frédéric Bertrand, et on va pouvoir à chaque pièce repérer quelque chose qui va nous permettre d'aller plus loin. Donc là, c'est de la lecture de l'image, par exemple. Voilà, on utilise des formes de jeux que les enfants connaissent, Marelle, jeu de loi, jeu de piste, escape game, etc. Et on introduit la littérature à l'intérieur.
Le jeu, donc, le plaisir, est-ce que c'est ça le secret, Vincent Monadet, pour emmener des jeunes, puisqu'on parle essentiellement des jeunes aujourd'hui, à la lecture?
Mais il y a deux jambes, il faut que ça marche sur deux jambes. L'école, c'est une jambe à laquelle je suis par ailleurs très attaché, qui est la littérature obligatoire, le socle commun de connaissances, apprendre à lire, devenir un lecteur fluide et courant, c'est vital. Après, il y a... Elle oublie, et c'est normal, c'est pas son rôle, l'autre pan de ce que c'est lire, prendre du plaisir, jouer, s'amuser, rêver, s'évader. Et effectivement, le jeu est une formidable entrée, pour les plus jeunes, dans l'univers de la littérature et du livre.
Ça reste une des activités privilégiée, préférée des Français quand même, le livre. Même si, vous le disiez, il y a beaucoup de concurrence et que le temps de loisir n'est pas forcément extensible.
Il la plébiscite comme activité, parce qu'elle a encore une dimension sociale très forte. Après, elle recule, donc ça veut dire qu'il y a, un hiatus entre leur discours plébiscitaire et leur pratique quotidienne. Mais... On en revient à la lecture des enfants. Il y a quelque chose qui est très frappant quand on étudie les jeunes adultes. Le moment de lecture préféré, privilégié, mais de très très loin plébiscité à plus de 80%, c'est le soir avant le coucher quand on a coupé les écrans. Et donc on voit bien qu'on retombe sur ce lien de l'histoire racontée qui permet de s'endormir une fois tout le reste terminé.
Les Français ont le sentiment de ne lire pas assez. Ils lisent quand même relativement, et en même temps, il y a de moins en moins de romans qui se sont vendus, par exemple, en 2018. C'est un peu la quadrature du cercle.
Le marché n'a pas été bon, c'est vrai, mais globalement, on a mieux résisté que plein d'autres activités culturelles pendant longtemps. Là, nous, on impacte avec un effet retard ce qu'ont vécu alors gravement la musique, la vidéo. Voilà, on a un léger effet retard et effectivement, les livres se vendent moins. Ils s'en produisent sans doute trop, donc il faut faire moins de livres plus lus, parce que moins de livres, ça veut dire plus défendre chaque livre. Plus parler de chaque livre, notamment à la radio, dans la presse, parce qu'il y a plus de moins d'offres, donc plus de choix, finalement, qu'on revoit le choix. Et donc, à partir de là, je pense qu'on peut repartir sur d'excellents chiffres. Ce qui a vraiment souffert, c'est la littérature étrangère, mais par exemple, la bande dessinée caracole sur des sommets qu'elle n'a jamais atteints et continue à avoir des croissances phénoménales.
Tout public, d'ailleurs. Hein,
tout
que
public,
ce soit
oui.
les jeunes ou les plus vieux. 7000 événements à travers la France, et puis quand même 2-3 événements dans le monde, même si, comme je le disais au tout début, partir en livre reste un événement quand même français, franco-français.
Eh ben oui, parce que progressivement, la fête commence à être un peu connue dans les instituts français qui nous aident et nous accompagnent. Donc là, par exemple, à New York, le département de livres du service culturel de l'ambassade de France va proposer un Summer Book Adventure pour les enfants du 11 au 14 juillet. Il y aura un bibliobus autour de Newcastle pour des lectures bilingues en Angleterre. Il y aura des rencontres organisées dans plusieurs villes de Chine. Je crois que l'Institut français de Chine est le premier partenaire à s'être emparé de cette fête et à en profiter pour faire circuler de la littérature. On a des photos magnifiques d'enfants chinois qui on raconte des histoires d'illustrateurs français, évidemment traduites en chinois. Et voilà. Et j'appelle tous les instituts qui nous écoutent à ne pas hésiter à s'emparer. C'est un grand plaisir qu'on leur enverra des documents de communication.
Et vous faites petit à petit votre chemin. Vincent Monadet, pour les petits et les grands, pour tout apprendre sur les expressions populaires, c'est la puce.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie Bouteloup.
Bonjour Pascal.
Alors pour cette dernière puce avant les vacances, on s'en fume une
On s'en fume pas vraiment une, mais on va revenir sur une expression qui contient effectivement le mot tabac.
Je le savais.
Donc, vous n'avez pas du bon tabac dans votre tabatière. En tout cas, l'expression, c'est faire un tabac. Une expression tout à fait de circonstance, puisque c'est tout le mal que je vous souhaite, mon cher Pascal, avec vos lectures au Festival d'Avignon. Que veut dire cette expression et d'où vient-elle? Eh bien, Julien Soulier nous dit tout dans un instant, mais avant, comme d'habitude, on retrouve nos petits écoliers désormais heureux vacanciers, mais aux propositions toujours aussi inspirées.
Tabac, je pense que ça veut dire qu'en fait on a fait quelque chose d'incroyable parce que c'est comme le tabac, tout le monde l'achète.
Bah pour moi, c'est que t'as fait quelque chose de mal, donc en gros t'entames tout ce que t'as fait de choses de mal.
Pour moi, ça veut dire que on fait une histoire alors que en fait y a pas d'histoire du tout et on s'entend bien.
Ça veut dire en faire un peu trop, ouais.
C'est faire fortune. Par exemple, je suis une star, je dis je vais faire un tabac.
C'est faire un carton, par exemple quand tu mets à la mode des chaussures, bah tu fais un carton, t'en vends plein.
C'est une autre façon de dire faire un caprice, parce que en faire tout un tabac, c'est comme s'il y a un père qui dit à son fils arrête d'en faire tout un tabac, ça veut dire arrête d'en faire trop.
C'est quand bah il y a quelqu'un, ils font une dispute et après ils se réconcilient et l'autre elle veut continuer à en faire plus.
Eh bien, Julien Soulier, qu'est-ce que vous pensez des propositions de nos petits écoliers?
Tout bonjour est centré. Lucie, bien, écoutez, elles sont vraiment formidables, elles sont très variées, très créatives, comme toujours. Hein.
On mais est toujours autour du tabac, hein, malgré tout, oui, le tabac dans sa tabatière. Pourtant, il n'est point question de ces feuilles à fumer, à chiquer ou à priser.
Pas du tout, si vous me permettez le jeu de mots, c'est un rapprochement qui serait un peu fumeux. En fait, il y a deux tabacs, effectivement, il y a le tabac qu'on connaît, hein, évidemment, qui, on le rappelle, nuit toujours à la santé. Donc qui vient d'une langue d'Haïti. Et donc là, ça a transité par l'Espagne hein, sous la forme tabaco et c'est arrivé en France sous la forme tabac. Mais là, il s'agit pas du tout de ça. Il s'agit d'un autre tabac, alors qui est passé par les facéties.
Qui s'écrit pourtant pareil.
Qui s'écrit pareil, mais qui est passé par les facéties de l'argot. Vous savez, l'argot, la langue verte, comme on dit, du début 20e, enfin 19e, début 20e, est très créative, très imagée. Hein, quand on parle du blé, de l'oseille, donc on a toutes ces denrées qui représentent l'argent. Et là, il y a eu une espèce de petit jeu de mots qui a joué sur tabac. Donc, le tabac dont on parle, ça vient du verbe tabasser. Donc tabasser, on connaît tous, hein. Et lui-même tabasser.
Tabasser, ce qui veut donc dire donner une multitude de coups de poing.
Donner une multitude, une volée de coups, ouais, donner des coups de poing, se bagarrer, se battre, enfin, et passer à tabac, comme on dit. Et donc tabasser, le verbe lui vient d'une espèce de racine un peu. Alors si vous me passez le terme un peu pédant, onomatopéique. Vous savez, les onomatopées, c'est les mots qui correspondent à des bruits, hein, boum, crac, voilà. Et donc là, c'est une racine de tab qu'on retrouve dans taper. Donc tabasser à l'origine, bah, c'est donner des tapes, frapper, hein.
Et ça a également donné l'expression un coup de tabac, par exemple, bien connu des marins,
exactement,
pour parler des tempêtes.
En argot, on s'est amusé à partir de tabasser à créer un mot, un tabac, qui désignait une volée de coups, et puis qui ensuite, dans l'argot de la marine, s'est spécialisé effectivement dans une tempête soudaine, donc comme si elle frappait les marins, hein, un coup de tabac. Et ensuite, au théâtre, vers les années 1950, le mot a pénétré donc l'argot théâtral. Et on pense, on n'est pas tout à fait sûr, mais on pense que la métaphore, en fait, qui a présidé au sens de faire un tabac, c'est l'idée de, quand on frappe, quand on applaudit, évidemment, on frappe ses mains, donc on fait un tabac avec les mains.
Comme une volée de coups,
comme
effectivement.
Comme une volée de coups avec nos mains, en fait, que l'on entrechoque les unes contre les autres.
Faire un tabac, c'est l'exact contraire de faire un four. Une expression
exactement.
Qu'on a déjà vue dans la puce à l'oreille.
Oui. Et faire un four, là, on pense que ça viendrait, alors on n'en est pas tout à fait sûr, mais ça viendrait probablement du moment où, évidemment, on s'éclairait à la bougie dans les théâtres, et puis quand la bougie était terminée et que la pièce n'était pas terminée, eh bien, les gens se retrouvaient dans le noir le plus total, comme dans un four.
Oui, ou alors, en tout cas, que la salle était noire et qu'elle était donc désertée
exactement,
par les spectateurs. Exactement, ensuite ils partaient,
effectivement.
Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme synonyme de faire un tabac?
Bah écoutez, c'est faire un succès, mais le
faire un carton.
Faire un carton, c'est vrai.
Cartonner.
Rencontrer un grand succès. Cartonner, qui vient effectivement de
tout carton. Déchirer.
Tout déchirer, un petit effectivement
tout
un
défoncer.
Peu plus récent. Ouais, tout défoncer, effectivement. Mais là, ce sont des expressions qui sont intéressantes. Et puis, c'est vrai que déchirer, c'est intéressant parce que c'est un terme qui, a priori, est plutôt négatif. Et là, on l'emploie un peu à contre-emploi, vous savez. Un peu
mais
comme
exactement.
Les jeunes, quand ils disent c'est grave bien. Grave, normalement, c'est quelque chose de négatif. Et puis, finalement, on le retourne en l'inverse. Et on en fait quelque chose de très positif.
Un petit peu comme quand on casse la baraque.
Exactement.
Alors, il paraît que casser la baraque, ça fait référence au chamboule-tout dans les fêtes foraines. On a cassé la baraque, on a tout mis par terre et donc, en fait, on a remporté le gros lot quoi, en cassant la baraque. On fait un malheur également quand on fait un tabac.
Oui, bah là, effectivement, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire, on utilise un terme négatif et puis on l'inverse et ça devient quelque chose de très positif.
Alors, aux États-Unis, on fait un éclaboussement. Alors, la traduction est un peu moyenne. En fait, on dit « make a splash » qui rejaillit.
Ou exploser, en fait.
Voilà.
Il a explosé au sens de...
On fait du bruit en Angleterre et en Espagne, on donne un coup de cloche et en Allemagne, on fait un succès de bombe. Eh bien, merci Julien Soulier d'être venu dans la puce. Vous avez, je vous le confirme, donné un véritable coup de cloche dans cette chronique. Une belle façon donc de nous quitter avant l'été puisque la puce va se faire dorer la pilule pour mieux revenir en septembre avec de nouvelles expressions. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent prendre dans leur sac de plage donc votre ouvrage Baillé aux corneilles et 99 autres expressions et qu'il est édité aux éditions First. Merci encore et je vous souhaite à tous un très bel été.
Merci à vous.
Merci Lucie. Faire un tabac. Vincent Monadet, c'est pas tout à fait une expression qu'on emploie pour parler de littérature et de livres.
Non, on dit pas.
On dit quoi d'ailleurs?
On dit il a cartonné, il a pété les scores, voilà. Mais on dit rarement le livre a fait un tabac. On dit ça a été un best-seller ou un gros best ou voilà.
Merci Vincent Monadet. Partir en livre commence donc aujourd'hui jusqu'au 21 juin. Et tout d'un coup, quel est votre souvenir d'enfance lié à la lecture, Vincent Monadet? Parce qu'après tout, il faut montrer l'exemple si on veut convaincre les jeunes ou raconter ce qu'a été notre propre expérience.
Ah, celui qui m'a le plus marqué, c'est d'avoir fait toute la Corse à 15 ans, donc un peu plus grand que l'enfance, sans lever les yeux d'Émile Zola. C'est-à-dire, je n'ai rien vu de la Corse, au grand désespoir de ma mère qui n'arrête pas de dire, mais regarde, regarde, regarde. Et j'étais plongé dans les Rougon-Macquart et je n'ai pas levé la tête et j'ai redécouvert la Corse beaucoup plus tard.
Mais ça, vous étiez quand même déjà grand.
Oui.
Merci beaucoup de vive voix à Pascal Paradou, à la présentation programmation Véronique Durand, Guillaume Ploquin à la réalisation. À demain.